One, two, one, two.
Parlons vrai avec BNP Paribas.
Vous faites un geste quand on assure une nouvelle voiture?
Eh oui, chez BNP Paribas, vous obtenez 10% de réduction sur la première année de chaque contrat d'assurance supplémentaire.
Eh bien, je vais assurer la voiture à pédale de ma fille.
BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change. Assurance auto BNP Paribas assurée par Avansure. Information en agence et sur bnpparibas.net.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Chaque jour sur Europe 1, Franck Ferrand nous entraîne au cœur de l'histoire grâce aux traces, aux vestiges, aux archives laissées par les événements grands et petits du passé. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un fonds d'archives particulièrement intéressant que nous allons explorer. Les archives de la préfecture de police où s'entassent 4 siècles de crimes, de faits divers, d'événements, vous allez voir, étonnants.
Exactement, et on y retrouve toutes les grandes affaires, j'imagine.
Oui, ça va de l'assassinat d'Henri IV à la mort suspecte d'Émile Zola. De l'affaire du courrier de Lyon au casse du train postal, ça nous rappelle quelques bonnes émissions tout ça.
C'est vrai.
Des dossiers sombres de l'épuration à ceux à peine moins sombres de la prostitution parisienne. Et vous allez voir que pour nous guider dans ce dédale de papier, je nous ai choisi le meilleur des guides.
De 13h à 14h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Imaginez que l'on vous sorte des cartons, qu'on vous présente des documents de première main sur quelques-unes des affaires les plus sensibles, les plus brûlantes encore de l'histoire de France. Imaginez qu'un mage vous propose de mettre sous vos yeux des pièces originales relatives à quelques-uns des chapitres les plus croustillants de notre passé. L'ordre de transférer à la Bastille la plus grande des arnaqueuses, par exemple, la comtesse de la Motte, à l'origine de l'affaire du collier de la Reine. Le rapport du gardien de la paix qui relate l'assassinat de Jean Jaurès à la toute veille de la Première Guerre mondiale, avec la fiche de reconstitution des faits, les minutes de l'interrogatoire de Marcel Petiot, le 31 octobre 1944, et puis des comptes rendus d'opérations, des fiches personnelles sur certaines dames surveillées, comme la Païva et même Sarah Bernard, des rapports confidentiels sur les lieux de débauche de la capitale, de génération en génération, et jusqu'à des lettres d'aveu soigneusement mises de côté. Le mage en question existe, il s'appelle Bruno Fuligny, et dans un ouvrage devenu maintenant célèbre, qui a été publié en 2009 chez l'Iconoclaste, il a présenté tous ses trésors issus des archives de la préfecture de police et il a demandé à nos meilleurs historiens de les présenter et de les commenter. Ce livre va ressortir très prochainement. Il est réédité le 18 octobre prochain dans une version souple et ça s'appelle tout simplement « Dans les secrets de la police, 4 siècles d'histoire, de crimes et de faits divers dans les archives de la préfecture de police ». Alors ça donne une collection de pépites. Par exemple, Jean Lacouture se penche sur un événement survenu à la veille de la victoire du Front Populaire en février 1936. On est sur le boulevard Saint-Germain à l'angle de la rue de l'Université et vous avez tous les gens de l'Action française qui sont là réunis pour rendre hommage à l'historien nationaliste Jacques Bainville qui vient de mourir. C'est Léon Daudet qui a prononcé l'éloge funèbre et certains aperçoivent la voiture de Léon Blum qui passe. Léon Blum à l'époque n'est encore que le député socialiste de l'Aube. Il est le leader de la SFIO. Et le mot d'ordre surgit à la cantonade « C'est Blum, crevons-le ! » Jean Lacouture fait ses délices du rapport du brigadier Barré à la direction des renseignements généraux. « Me précipitant aussitôt sur les lieux, écrit ce brigadier, j'ai constaté qu'une centaine de personnes entouraient une automobile dans laquelle se trouvait M. Léon Blum, accompagné d'une dame, Germaine Monet, l'épouse du député de l'Aisne, assise à l'arrière de la voiture. Les assaillants qui avaient entouré la voiture et ouvert les portières tentaient d'en faire sortir M. Blum tout en continuant de pousser des cris de « Blum assassin » et cherchait à le frapper. L'un d'eux a même crié « On va le pendre !» N'ayant pu parvenir à sortir M. Blum, les assaillants à coups de canne et de poing ont cassé les glaces et à plusieurs reprises frappé M. Blum, notamment à coups de canne en boue par la glace arrière. Le député a reçu sur le côté gauche du cou une blessure qui saignait abondamment. L'ouvrage présente ce rapport en facsimilé à côté d'un autre, celui de l'inspecteur Delis de la direction des renseignements généraux au commissaire de police de la section locale. Ce sont là des moments très intenses, des moments de vie qui ressurgissent sous nos yeux. L'agression provoque une intense émotion, raconte Jean Lacouture. Le président du Conseil, Albert Sarraut, décide de dissoudre la Ligue d'Action Française et l'immense cortège de solidarité qui, le 16 février, à travers l'Est de Paris, réunit socialistes, radicaux et communistes mêlés, ouvre la campagne victorieuse du Front Populaire. Et voilà comment, au fil de ces dossiers soustraits un instant aux archives de la police, c'est la petite histoire qui ressuscite et nous mène tout droit à la grande.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons sur Europe 1 avec Bruno Fuligny, qui est écrivain et historien. Il a dirigé le beau livre dans les archives secrètes de la police. 4 siècles d'histoire, de crimes et de faits divers dans les archives de la préfecture de police. Disponible chez l'Iconoclaste. Il sera d'ailleurs réédité le 18 octobre prochain en version souple.
Voilà, et ça va s'appeler « Dans les secrets de la police », tout simplement. Je dis ça pour tous nos auditeurs libraires, qu'ils ne s'y perdent pas dans ces différents titres. « Dans les secrets de la police », sous la direction de Bruno Fuligny. Merci beaucoup Bruno Fuligny d'être des nôtres, d'avoir réussi à vous soustraire à vos grandes occupations à l'Assemblée nationale pour venir nous parler de ces archives incroyables. Alors tout à l'heure, je vais raconter la vie de Vidocq, qui est un peu dans l'imaginaire collectif en France, considéré comme le père, l'un des pères de la police. Il faudrait parler de Fouché, évidemment de l'araignée, on y vient dans un instant. Ce qui m'étonne concernant ces archives, c'est que j'avais appris, moi je croyais avoir appris, qu'elles avaient brûlé au moment de l'incendie de la Commune, que tout ça avait disparu en fumée en 1871. Il en reste donc.
Il en reste un peu. Quand on voit ce qui reste, on regrette évidemment, on imagine ce qui a disparu, les trésors qui sont partis en fumée.
Non, disons que des pans entiers de l'histoire de France.
Oui, parce qu'il faut bien voir que la préfecture de police fondée en 1800 est l'héritière de la lieutenance générale de police fondée sous Louis XIV et qui elle-même bien continuait plus ou moins la prévôté médiévale. Donc il y avait des archives qui remontaient au Moyen-Âge. Alors, certains éléments avaient été cachés pendant le siège de Paris et donc n'ont pas brûlé. D'autres dossiers étaient dans les bureaux et pas encore archivés. Donc de ci, de là, par exemple, on a...
Ce sont des vestiges d'archives.
Ce sont des pans qui ont échappé à l'incendie. C'est ça. Des vestiges intéressants. Par exemple, vous avez tous les registres d'écrous des anciennes prisons parisiennes. À commencer, bon, la Bastille, la Conciergerie, toutes ces prisons, y compris les petites prisons qui ont disparu.
C'est-à-dire les entrées, les sorties.
Les entrées, les sorties, avec dans la marge les motifs pour lesquels on a arrêté tel individu, le supplice auquel il est condamné et auquel il se rend tel jour à telle date. On a la signature de celui qui amène le condamné ou celui qui vient le chercher. Donc ce sont quand même des documents intéressants. Mais il est vrai qu'il y a eu un grand incendie dans la Commune qui a fait disparaître des trésors. En revanche, depuis 1871, là c'est d'une richesse absolument incomparable.
Alors avant d'aller nous balader, si je puis dire, dans ce fonds d'archives et d'évoquer un certain nombre de soulever le coin de quelques dossiers célèbres, j'aimerais que vous nous éclairiez sur l'histoire de la police elle-même. La police moderne, telle qu'on l'entend, ça n'existe guère avant Louis XIV, vous disiez.
Ah oui, c'est une invention récente. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il n'y a pas de police indépendante. Les forces de l'ordre, pour employer un terme anachronique, sont tout simplement des auxiliaires de la justice. Voilà. Un petit peu comme les gardiens de prison aujourd'hui.
Dit de la justice, on devrait même dire des justices.
Exactement.
Car il y a de nombreuses justices concurrentes.
Il y a la justice royale, la justice ecclésiastique, les justices seigneuriales, sans compter des droits très particuliers. Songez que les étudiants à Paris dépendent du roi de la basoche. C'est-à-dire d'un pseudo-roi qu'ils ont eux-mêmes choisi en leur sein et qui est compétent pour la plupart des litiges entre étudiants. Donc, il y a plein de bonnes raisons d'échapper.
C'est une justice qui ressemble plus à du bizutage qu'autre chose, là.
Oui, oh, c'est une justice qui pouvait être rigoureuse, mais qui était essentiellement indulgente. Et de façon générale, il n'y avait d'abord un véritable kaléidoscope, une multitude de justices différentes, et cette justice avait simplement des hommes de main. Autant dire que si on ne prend pas un criminel sur le fait, il n'y a à peu près aucune chance pour qu'une enquête aboutisse à une condamnation.
Et puis arrive Nicolas de l'Araignée.
Alors Nicolas de l'Araignée ne vient évidemment pas tout seul, il est nommé par Louis XIV et sur une suggestion de Colbert. Et là on entre dans la police moderne, c'est-à-dire que, pas pour toute la France, mais pour Paris, où véritablement le pouvoir du roi est défié par de véritables confréries de larrons, de voleurs, de malfaiteurs.
C'est le milieu avant la lettre. Hein.
C'est mieux que le milieu. C'est un véritable royaume dans le royaume. Et d'ailleurs, il y a un roi des thunes, la thune étant la pièce d'argent, hein, qui règne sur l'ensemble des malandrins, malfrats, tirelaines de Paris. C'est la fameuse cour des miracles qui est véritablement le siège de cette royauté de malfaiteurs qui met la ville en coupe réglée. Alors, le pouvoir royal décide de mettre fin à cela. On nomme l'Araignée lieutenant général de police, c'est-à-dire qu'on crée une magistrature indépendante. C'est incroyable si on réfléchit. Ce monarque, monarque absolu, monarque de droit divin, pour Paris, va déléguer en quelque sorte son pouvoir absolu à un magistrat en qui on a une très haute confiance et qui va exercer un pouvoir mais extraordinaire, puisque le pouvoir de police, c'est pas seulement d'arrêter les criminels, c'est un pouvoir d'urbanisme aussi, c'est un pouvoir qui tient à l'hygiène, c'est celui qui va installer des lanternes pour que la ville soit fréquentable la nuit, c'est quelqu'un qui va totalement refaçonner la ville de Paris et la façon dont on y vit, d'autant que l'Araignée va rester lieutenant général de police pendant 30 ans. Et ça, c'est très important.
Il y en aura d'autres, par la suite, sous le règne de Louis XV, on pense à Berryer, enfin des gens comme ça, qui vont jouer un rôle très important dans cette organisation progressive de la police. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la police, c'est avant tout du renseignement. Et c'est ça, finalement, le rôle essentiel de la police de cette époque.
Le meilleur enquêteur gagnera de toute façon un temps fou s'il a des informations, s'il a ce qu'on appellerait des indications et donc des indicateurs.
Des mouches.
Voilà. Au temps de Louis XIV, on ne dit pas indique, on dit des mouches, ce qui donnera le mot mouchard ensuite. Et il y a véritablement un essaim de mouches dans la capitale, mais aussi à Versailles et un petit peu partout. Et l'Araignée dira qu'il recrute chez les valets et les ducs.
En compagnie de Bruno Fulini cet après-midi, nous plongeons dans le cœur des archives secrètes de la police.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Ni grand ni gros, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux en torpedo, de vrais casse-cou à 35 au chrono.
Les Brigades du Tigre sur Europe 1, générique de la célèbre série télévisée.
Vous savez qu'on a célébré là récemment le centenaire de la création de la fameuse brigade de Clémenceau. Alors, on n'y est pas encore là. Nous sommes au tout début du 19e siècle, au moment où Napoléon Bonaparte décide de mettre fin à la lieutenance générale de police. Bruno Fulini.
Disons qu'il... On a mis fin un petit peu avant lui, c'est la Révolution, qui a détruit cette lieutenant général de police, car on la considérait bien sûr comme un des outils du pouvoir royal et donc de l'arbitraire. Et donc on fait un essai...
Au moment de la remise en place des institutions, on ne la reprend pas telle qu'elle, en tout cas.
C'est-à-dire que les révolutionnaires ont fait un essai très généreux et en même temps très malheureux, d'une police élue. C'est-à-dire qu'on a 60 districts avec des commissaires élus, autant dire que bientôt, chaque faction a sa propre police et c'est un bazar terrible. Alors, les malfrats sont très contents. En revanche, d'un point de vue politique, c'est particulièrement dangereux. Donc, en 1800, en Messidor en 8, devrais-je dire, Napoléon Bonaparte décide que ça suffit et qu'on va créer quelque chose qui ne s'appellera pas la lieutenance générale de police, mais qui y ressemblera très étrangement, c'est la préfecture de police. Un petit ministère, en réalité, ce qui veut dire que à côté du ministère de la police générale, ancêtre du ministère de l'Intérieur, il y a cette entité qui règne sur Paris et les communes limitrophes, avec un préfet qui a d'immenses pouvoirs de police au sens strict, mais également de police politique, et ça va jusqu'à inspecter ce qui peut se passer dans les maisons closes, dans les alcôves des grandes courtisanes, un pouvoir important aussi sur l'approvisionnement de la ville, de façon à éviter que les Parisiens soient trop mécontents.
On se demande toujours quelle est la limite entre l'ordre public, l'assistance à la justice et puis le renseignement politique dans toutes ces fiches et dans tous ces dossiers, évidemment.
Ce qui est fascinant dans les dossiers de police, police, ce ne sont pas tellement les dossiers liés à des affaires, je trouve. Ou bien sûr, vous allez avoir le récit d'un crime et des éléments, des témoignages. Mais bon, mais il y a quelque chose, je trouve, de beaucoup plus intéressant. Ce sont ces milliers de dossiers qui ont été constitués à titre préventif. Et là, on est vraiment dans du renseignement. On a des documents qui viennent d'indicateurs bénévoles ou d'indicateurs qu'on a sciemment placés dans l'entourage d'une personnalité, en lui faisant recruter un domestique qui, en fait, travaille pour la police, par exemple. Et on a, comme cela, des centaines et des centaines de petits mots. On suit au quotidien, non seulement des personnalités politiques, mais des écrivains, des sculpteurs, des compositeurs. Tout ce qui fait la vie parisienne du 19e siècle, eh bien, on peut le suivre quasiment au jour le jour dans les dossiers de police.
Il y a eu de très grands préfets de police, évidemment. On pense au préfet Lépine, très célèbre, au préfet Andrieux. Enfin, il y a eu quand même un certain nombre de grands patrons, plutôt vers la fin du 19e siècle.
Alors, le préfet Andrieux est intéressant, d'abord parce que c'est le père naturel d'Aragon, ce qu'on ne sait pas assez. Et surtout, il est préfet de police de 1879 à 1881, c'est-à-dire à un moment où les républicains s'empare véritablement du pouvoir. Et lui va à la fois combattre donc ce qui reste de monarchistes, mais aussi une menace complètement nouvelle, les anarchistes. Et par ailleurs, Andrieux, qui a un beau brin de plume, a laissé des souvenirs qui sont extrêmement précieux, parce qu'il raconte avec un cynisme tout à fait étonnant comment il a infiltré les milieux anarchistes. Il a tout simplement pris l'argent de la préfecture de police pour créer un journal anarchiste. Comme ça, tous les anarchistes voulaient écrire dedans, et lui les contrôlait et savait ce qu'il préparait.
D'autres s'inspireront de cette méthode par la suite. Il faut dire que l'opinion publique ne voit pas cette police. Les gens, le bourgeois moyen de la ville ne voit pas cette police. Il faut attendre l'arrivée des sergents de ville.
Il y a deux polices. Oui. Il y a une police en civil, ces gens qu'on va appeler les hambourgeois, parce qu'ils sont habillés en bourgeois. Et puis, il y a une police qui va être visible à partir de 1829. C'est la création des sergents de ville, ancêtres de nos gardiens de la paix. Les sergents de ville ont un uniforme. C'est très important parce que, contrairement aux mouchards, donc on les voit, ça a un effet préventif. Si un sergent de ville se promène sur un marché, ça peut dissuader les voleurs. Et puis, ça c'est très important aussi, les sergents de ville ont un numéro brodé sur leur képi et sur leur col. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez maille à partir avec un fonctionnaire de la préfecture de police en uniforme, vous pouvez porter plainte contre l'agent numéro 26. Alors que pendant longtemps, les policiers étaient des gens, au début du 19e siècle, assez peu éduqués, certains assez rustaux, et dont on ne connaissait pas le nom. Il y a eu beaucoup d'affaires. On ne savait
bavures,
plus trop
ce qu'on appelle nous maintenant des bavures
ou simplement des vols des policiers qui étaient un petit peu douteux et
on
qui ressortaient avec des bijoux.
On avait reçu ici Robert Muchimblet qui nous racontait l'histoire de ces policiers qui passaient leur temps à changer de camp en quelque sorte, qui étaient tantôt policiers, tantôt voyous.
La police, à la fin de l'Ancien Régime et au début du 19e siècle, c'est une profession extrêmement décriée et on a des personnages un petit peu douteux qui travaillent pour la préfecture de police.
Le plus célèbre de tous ces personnages douteux, c'est évidemment Vidocq. Nous venons à la vie incroyable de Vidocq dans un instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit sur Europe 1 qui s'intéresse aujourd'hui à Vidocq.
Évidemment, quand on parle de Vidocq, on songe volontiers au grand film de Pitoff et peut-être davantage ancré dans les mémoires à une série télévisée, et même deux, signée d'un grand nom de l'ORTF, Marcel Bluval. Au départ, Vidocq était incarné par Bernard Noël et puis, ce comédien étant décédé, il a été remplacé par Claude Brasseur. Les plus nostalgiques seront heureux, je pense, d'entendre quelques notes du générique du premier Vidocq.
Vidocq, flashback sur Europe 1, une musique composée par Serge Gainsbourg.
Alors évidemment, si vous avez des références plus littéraires, vous savez sans doute que le personnage a aussi inspiré de grands auteurs. Un bagnard qui se met au service de la police pour lutter contre le crime tout en faisant ses propres affaires, vous avouerez que ça ne pouvait que tenter les romanciers. Balzac, qui avait rencontré Vidocq en 1822, l'a pris pour modèle du Jean Vautrin de la comédie humaine, évidemment. Mais on pourrait parler aussi de Victor Hugo, qui s'en est inspiré admirait pour son Jean Valjean et pour Madeleine, pour le père Madeleine dans les Misérables. Eugène Sue a collaboré avec Vidocq pour ses Mystères de Paris, directement. Edgar Poe s'en est aussi inspiré pour son personnage de Dupin dans le double assassinat de la rue Morgue, etc. Etc. On pourrait en citer pas mal. En soi, la vie de Vidocq est un roman extraordinaire, bourré de rebondissements et en même temps, pendant les 82 années de son existence frénétique, Vidocq a connu la lassitude des épisodes qui fatalement, inexorablement se répètent. « J'ai trop aimé les duels et les femmes », reconnaîtra-t-il au soir de sa vie. Et c'est vrai que les premiers ont été innombrables, quant aux secondes. Alors je me suis amusé à compter également les évasions de Vidocq. Évasion réelle ou évasion arrangée, puisque vous savez qu'au bout d'un, à partir d'un moment, on ne sait plus trop à quoi on a affaire. J'en ai relevé, tenez-vous bien, pas moins de 10. Ce qui fait qu'il aurait eu largement sa place dans notre émission de l'autre jour sur les évasions célèbres. 10 évasions, à chaque fois dans des circonstances à peine croyables et qui suffiraient à faire chacune la matière d'un roman. Il y a aussi, dans cette vie foisonnante, des engagements militaires et des désertions, des affaires infernales, des opérations crapuleuses ou pseudo-crapuleuses, et puis anti-crapuleuses, et toutes sortes d'affaires financières, commerciales, politiques. Vidocq était un homme qui regorgeait de projets. Je n'exagérerai pas en vous disant que cette vie est sans doute la plus remplie qu'il m'ait été donné de connaître, et Dieu sait quand même qu'en combien 1200 émissions maintenant,
ah, tout de même, hein.
j'en ai parcouru quelques vies, mais celle-là est tout à fait inouïe. Eugène François Vidocq était né au tout début du règne de Louis XVI, en 1775, à Arras, dans une famille de boulanger. C'est le vilain petit canard, disons-le, l'enfant turbulent, bagarreur et difficile, et en même temps, au milieu d'une fratrie de 6, et en même temps, un personnage débrouillard, inventif, extrêmement vivant. Ses parents vont bientôt s'en rendre compte, à leurs dépens. Il faut savoir que très jeune, il a même pas 17 ans, il va quand même leur dérober 2000 francs, ce qui est une très grosse somme pour l'époque, avec l'idée de s'embarquer pour l'Amérique. Finalement, il ne partira pas pour l'Amérique, puisque avant, il a dépensé tout l'argent en alcool et en filles. Mais les parents ne tarderont pas à aller rechercher leur fils assez souvent à la prison, chez les sergents d'Arras, précisément. Alors, il faut imaginer le nombre de petits larcins, d'affaires pas nettes, etc. Et puis finalement, il est enfermé au Baudet. Le Baudet, c'est une des prisons. À l'époque, on avait des toutes petites prisons. Hein. C'est une des prisons d'Arras. Et les parents de Vidocq décident de ne rien faire pour l'en faire sortir. Tu verras, dit Madame Vidocq à son mari, tu verras, ça va lui servir de leçon. Après ça, il s'assagira. C'est Vidocq lui-même qui nous raconte l'anecdote. La pauvre femme, si elle avait pu se douter. À 19 ans, le voilà condamné à 3 mois de prison pour s'être disputé avec un capitaine du génie. Je ne vais pas tout vous raconter parce que ça n'arrête pas. C'est constamment des affaires, très souvent des rixes liées à des histoires de femmes. D'ailleurs, disons-le, il n'y a pas que des histoires d'argent dans cette jeunesse turbulente. Il se trouve que pendant son enfermement, il va rendre service à un brave paysan qui a été enfermé là plus ou moins par erreur. Il sert de complice à des gens qui vont réaliser un faux ordre de sortie pour aider à faire libérer ce brave paysan. Sauf que le brave homme, rattrapé bien entendu, va dénoncer ses complices. Et que là, cette fois, pour Vidocq, ça commence à aller très mal. C'est là qu'il est obligé, si je puis dire, de s'évader une première fois grâce à un uniforme que lui a procuré une de ses maîtresses. Il sera dénoncé. Le commissaire de la ville vient en personne l'arrêter dans la taverne où il se trouve. Alors, il est là devant la porte de la taverne. Il leur dit « Entrez, entrez, messieurs, Vidocq est là. S'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Je vais m'arranger pour vous mettre en sa présence. » Évidemment, les policiers entrent. Ils ferment la porte à double tour. Et c'en est terminé de cette affaire-là. « J'avais 21 ans », écrit Vidocq dans ses mémoires, « mais ce n'était pas le complice douteux d'un faux ridicule qu'on frappait lorsqu'on l'a condamné au bagne, car à 21 ans, il est condamné au bagne. C'est sur le détenu remuant, indocile, audacieux, c'est sur le chef de tant de complots d'évasion qu'il fallait faire un exemple. Je fus sacrifié pour l'exemple. » Il va quand même passer de 1796 à 1811, il va passer 15 ans au bagne. Ça, c'est la période extrêmement dure de sa vie. Et c'est en 1811, au cours d'un transfert de prisonniers, que Vidocq va réussir à s'évader. Sauf que cette fois, il s'évade avec le concours, avec la complicité de la police. Et oui, parce qu'au moment d'un de ses transferts à Bicêtre, il a réussi à approcher le chef de division Henri et il lui a proposé ses services. Vous savez, au bout de 15 ans au bagne et après une jeunesse aussi agitée, Vidocq s'est rendu compte qu'il était peut-être temps qu'il change de vie. Et il a proposé à la police de devenir ce dont nous parlait Bruno Fulini tout à l'heure, une mouche. Sauf que ce n'était pas une mouche libre qui se promenait dans la rue et dans les mauvais lieux pour informer la police de ce qui s'y tramait. C'était un mouchard installé en prison pour parler de ce qui se passait au sein même de la prison et pour provoquer les confidences des détenus, si vous voulez dire. Cet indicateur va donc pouvoir être bientôt libéré. En 1811, donc après 2 ans de ce travail pas très net, il faut bien le reconnaître, le préfet Dubois en profite immédiatement pour confier à Vidocq l'organisation de tout un service de police. Et de 1811 à 1827, on va voir Vidocq mener une activité policière sans répit. Il est partout à la fois, cet homme-là, et bien entendu, comme les gens dont on n'arrive jamais à les situer, comme ceux qui, anciens bagnards, deviennent évidemment policiers, il a mauvaise réputation au sein même de la police et chez ses supérieurs. Les services immenses qu'il rend à l'État ne sont vraiment pas payés de retour. Je n'ai pas trop le temps de m'apesantir sur toutes les vilainies dont on accable le pauvre Vidocq, mais alors pour le coup, la série policière nous les montrait dans tous les sens. En 1827, cette vilainie ira jusqu'à monter une espèce d'affaire, une affaire ridicule de vol du manteau de la préfète, une affaire pour faire chasser celui qui est devenu chef de la sûreté. Évidemment, Vidocq a ses propres informateurs. Il y a des informateurs à plusieurs détentes dans ces services-là. Il est bien trop malin pour se laisser avoir. Seulement, cette fois, il est écœuré. Il se dit que ce n'est pas une façon de traiter un homme qui a rendu autant de services. Et il va présenter sa démission. On est là en 27, c'est la fin du règne de Charles X. Avec la monarchie de Juillet, avec l'arrivée de Louis-Philippe au pouvoir, les choses, on peut dire que le paysage pour Vidocq s'éclaircit. Et d'autant plus que très vite, le roi Louis-Philippe est confronté à une opposition très dure, à des violences qui vont devenir des violences de rue, des émeutes. Et dès 1831, dès la fin de 1831 et dès le printemps de 1832, il faut trouver quelqu'un pour mettre de l'ordre. Et à qui va-t-on faire appel? Bien entendu, à Vidocq, qui va régler assez brillamment toute la série d'émeutes de ce tout début d'été, enfin de cette fin de printemps 1832. 16 ans plus tard, en 1848, au moment où une nouvelle révolution est en train de monter contre Louis-Philippe, on va voir Vidocq proposer de nouveau ses services. Sauf que cette fois, on n'a plus besoin de lui, on doit l'estimer soit trop âgé, soit pas assez fiable. En tout cas, il ne sera pas là pour sauver une deuxième fois le régime de Louis-Philippe. Lamartine, qui avait beaucoup œuvré et qui voulait qu'on confie à Vidocq la police, disait « Si mes collègues eussent voulu me laisser le champ libre et s'ils s'en fussent rapportés à moi, rien qu'avec Vidocq pour auxiliaire, je me serais fait fort de dominer cette situation révolutionnaire de 1848. » On sait ce qu'il en a été, la chute de Louis-Philippe, l'installation de la Deuxième République. Et c'est le même Lamartine qui, alors beaucoup plus tard, au moment de la mort de Vidocq, entre-temps il est devenu détective privé, il a monté son agence, il a monté toutes sortes d'affaires très complexes. C'est le même Lamartine qui dira à l'ami venu lui annoncer le décès de Vidocq « Je l'aimais, je l'estimais, je ne l'oublierai jamais et je dirai hautement que c'était un honnête homme. »
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous nous promenons aujourd'hui sur Europe 1 dans les fascinantes archives de la préfecture de police, toujours en compagnie de votre invité Franck Bruno Fulini, qui est écrivain et historien.
Et Patricia nous dit sur le site internet d'Europe 1, petite réflexion en vous écoutant, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, nous vivons dans une société où l'insécurité est moins présente qu'au siècle précédent. Il suffit de lire les comptes rendus des journaux, les dépôts de plaintes. Je suis archiviste intercommunal et c'est toujours émouvant de lire les comptes rendus d'agressions, par exemple. Et elle nous donne un exemple, Patricia, que je n'ai pas le temps de lire, on ne va pas entrer dans tous les exemples, mais on peut dire ça, Bruno Fulini,
oui,
que la sécurité était encore encore moins grande autrefois ?
Disons qu'à chaque fois qu'un crime est commis, la réaction de tout le monde et des autorités politiques, c'est de dire le pays est de plus en plus violent. Mais c'est faux, en tout cas pour Paris, c'est totalement faux, pour la banlieue aussi. Au 19e siècle, vous avez des bandes de gamins dans le cœur de Paris, des gamins totalement livrés à eux-mêmes, et pas seulement des gavroches, des gamins qui vivent de vols, de rapines, de prostitution. La ville était extraordinairement dangereuse, bien sûr, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui.
Alors on s'en rend compte quand on se promène dans votre ouvrage. Alors vous avez séparé les documents qui sont présentés et les commentaires qui les accompagnent, en partie qui résument à peu près toutes les motivations du crime, l'argent pour commencer, le pouvoir dans un deuxième temps, et l'amour dans un troisième partie. La partie consacrée à l'amour, entre nous, est particulièrement sulfureuse. Hein. Il s'en passait des choses dans les bas-fonds de cette capitale autrefois.
Il s'en passait beaucoup, d'autant que Paris était pour le monde entier la capitale des plaisirs. Donc on venait à Paris, on ne parlait pas de tourisme sexuel, mais c'est vraiment de ça dont il s'agit.
Oui, bien sûr.
On a des documents très étonnants, même des registres. On a des registres de courtisanes, des registres de prostituées, plusieurs registres sur les homosexuels au 19e siècle. Et donc ces archives policières nous donnent des informations écrites sur toutes sortes de pratiques, de lieux de rendez-vous, de choses que l'on pourrait croire très confidentielles. En fait, la police est là partout. D'ailleurs, beaucoup de tenanciers de mauvais lieux, évidemment, ne peuvent faire leur travail qu'avec le consentement de la police, même sous le contrôle de la police.
La préfecture de police gérait d'ailleurs la prostitution à l'époque.
Alors elle ne gérait pas directement bien sûr les maisons, mais elle on ne pouvait pas ouvrir une maison sans passer par la préfecture de police, qui même effectuait un contrôle sanitaire, médical, mais également un contrôle policier. Et bien sûr, si vous aviez des clients de marque, il était de bon ton de le signaler à la police.
Il y avait des prostituées à tous les étages, si je puis dire, y compris tout à fait au sommet de la société. On se rappelle évidemment la mort un peu délicate du président Félix Faure à l'Élysée.
Alors le président Félix Faure, ça n'est pas une prostituée.
C'est une cocotte
Même pas vraiment. Marguerite Stenel, dite Meck, c'est une femme mariée, épouse d'un peintre. Alors il est vrai que sous la présidence de Félix Faure, les commandes publiques vont affluer, mais c'est une histoire beaucoup plus compliquée. Justement, on s'en rend compte en lisant les dossiers de police. Ce qui va se passer, c'est que le 31 mai 1908, dans l'impasse Ronsin, 15e arrondissement de Paris, un valet qui arrive le matin va découvrir le peintre Stenel mort, étranglé, la belle-mère morte également, et Meg ligotée dans son lit, toujours vivante. Et on va toujours se demander si elle n'est pas complice, qui expliquerait qu'elle ait survécu.
Et donc, a posteriori, on est remonté jusqu'à l'affaire de la mort.
Dès le lendemain. C'est là qu'on voit que la police est bien faite. Si vous prenez le dossier de l'affaire du crime de l'impasse Ronsin, dès le lendemain de la découverte des deux corps, il y a un petit papier qui dit, attention, cette Marguerite Stenel n'est autre que la fameuse connaissance du président Félix Faure, 9 ans plus tôt. Et à partir de là, on va avoir tous les mobiles qui vont s'entrechoquer, le pouvoir, l'argent et l'amour, parce que certains vont se dire, oui, mais alors, pourquoi y a-t-il eu ce crime? Est-ce qu'elle cachait quelque chose? Est-ce qu'il n'y avait pas la preuve que la mort du président Félix Faure n'était pas simplement un accident au paroxysme du plaisir, mais peut-être quelque chose qui a été provoqué?
Est-ce qu'elle n'aurait pas essayé d'empoisonner le président?
Voilà, et là on tombe dans les théories du complot.
Dans les secrets de la police, 4 siècles d'histoire de crimes et de faits divers dans les archives de la préfecture de police. Ce sera donc très prochainement réédité, dans moins de 2 semaines. Vous êtes très prolifique, Bruno Fuligny. Le livre des espions, dans les archives inédites des services secrets, tout ça ressort cette semaine même, aux éditions d'Iconoclaste. Et puis, aux éditions des Arènes, un petit livre pour lequel vous reviendrez, parce qu'on va en parler, c'est trop drôle, un livre collectif qui s'appelle « La tortue d'Eschyle et autres morts stupides de l'histoire », voilà, qui promet encore de bons
moments. Un bon programme, oui.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Le générique de la série télé Maigret qui nous met dans l'ambiance, Franck.
Oui. Alors cette semaine, nous parlons des prix du magazine Historia qui ont été décernés il y a une dizaine de jours à la Grande Galerie des Gobelins à Paris. 10 jurys se sont réunis pour primer des initiatives, des bonnes, des initiatives heureuses dans le domaine de l'histoire. Alors hier, je vous parlais des lauréats pour le jeu vidéo et le roman policier. Je voudrais aujourd'hui évoquer les vainqueurs des prix de l'exposition et de l'inattendu, tous deux en rapport du reste avec notre sujet policier du jour, ça tombe bien. Le prix Historia de l'exposition est revenu à un événement qui a marqué l'année passée aux Archives nationales, une remarquable exposition de Pierre Fournier et Jean-Marc Berlière, consacrée au fichage policier en France du début du 19e siècle aux années 1960. D'autant plus remarquable entre nous cette exposition que la plupart des documents exposés étaient, vous savez, ces petites fiches de police, ce qui représente un grand défi pour les scénographes qui ont su tourner la contrainte, en faire un atout et proposer aux visiteurs une expo qui était à la fois très accessible, très propice aussi à bien des questionnements. Quand le fichage, destiné à l'origine à aider la justice, se met à déraper, notamment sous l'occupation, c'était très, très bien montré. C'était donc l'exposition intitulée « Fiché » l'année dernière aux Archives nationales. Et à propos de Jean-Marc Berlière, Jean-Baptiste nous dit via Facebook qu'il avait co-signé un très bon documentaire diffusé par France 5 qui s'appelait « L'histoire de la police française ». C'est une belle exposition. D'ailleurs, vous-même, vous avez mis une photographie anthropométrique sur la couverture de votre ouvrage, Bruno Fulini.
Tout à fait, c'est le paradoxe, c'est que Alphonse Bertillon, le père de l'anthropométrie, voulait mettre fin aux photos artistiques et a voulu rendre scientifique la prise de portraits pour pouvoir reconnaître, identifier les récidivistes. Mais en fait, ces photos sont extraordinaires. D'abord parce que un malfrat arrêté est passé un petit peu à tabac, donc il a une expression, il a une expression très visible. Et puis ces photos sont extrêmement belles, y compris ces teintes sépia qui nous émeuvent.
Et puis le prix de l'inattendu, le prix Historia de l'inattendu, dont la vocation est de récompenser des initiatives utilisant de nouveaux vecteurs, a été décerné à ce qu'on appelle un web documentaire. C'est un ouvrage interactif, consultable sur Internet et consacré, en l'occurrence, aux ratonnades du 17 octobre 1961, dont nous avions parlé à ce micro, un web doc donc intitulé, sous-titré « La nuit oubliée ». L'un des concepteurs de ce web doc est avec nous dans ce studio. Je suis très heureux de l'accueillir.
Olivier Lambert.
Olivier Lambert, pardon, voilà, je cherchais votre nom. Olivier Lambert, vous avez eu vous-même l'initiative de ce travail. Il faut dire que c'est totalement un travail qui peut évoluer, puisqu'on se rend sur Internet, sur le site, et l'on a un certain nombre de chapitres, on ouvre des fenêtres. Dans les fenêtres, il y a des interviews que vous avez réalisées. On est en plein, là, dans le multimédia.
Tout à fait. En fait, je travaille avec Thomas Salva, qui est photojournaliste. Lui avait entendu en 2007, via une autre émission de radio, là-bas si j'y suis, sur France Inter, ces événements du 17 octobre. Et il s'était dit, mais c'est étonnant, je n'en ai entendu jamais parler. Et moi non plus. Et quand on a commencé à travailler avec Thomas, en fait, on est reparti sur son travail de photographe, où il avait rencontré des témoins de ces événements. Et on a décidé d'aller plus loin et d'utiliser exactement la puissance du multimédia, c'est-à-dire de créer un espace mémoriel qui puisse évoluer et sur lequel on puisse afficher, nous, des témoignages que nous réalisons en vidéo et photo, notamment des témoins qui ont vécu l'événement, mais aussi voir un peu les enjeux de pouvoir en coulisses avec des témoins qui connaissent bien les enjeux
et
politiques.
Et des témoins que vous êtes allés rencontrer, donc.
Exactement.
On a des témoignages directs de gens qui ont vécu les événements.
Tout à
ça,
fait.
C'est assez spectaculaire.
Ce sont des gens qu'on a réussi à retrouver, donc 50 après l'événement, qui est quand même une longue durée. Certains n'avaient jamais parlé de ces événements. On peut penser à Catherine Lévy, qui à l'époque était étudiante en 61, qui était assez engagée politiquement à gauche et qui, pour la première fois, a donné un témoignage visuel, puisqu'elle s'est retrouvée par hasard dans cette manifestation et elle a vu des coups, des traces de sang dans le métro, etc. Donc pour nous, c'était important aussi de mêler des témoignages de gens qui faisaient partie du pouvoir. On a rencontré Ali Haroun, qui faisait partie des chefs de la Fédération de France du FLN, ou encore Constantin Melnik, qui était au cabinet de Debré, donc du Premier ministre, et qui, lui, était vraiment au cœur de pouvoir. Et
là, ce sont des témoignages plus politiques. En
exactement, mais qui donnent un autre aperçu, disons, de cet événement qui était vraiment... très violent pour les témoins visuels directs, mais qui s'explique en coulisses justement par des décisions politiques et ce qu'on oublie d'évoquer souvent, mais que la guerre d'Algérie se jouait aussi sur le territoire français et notamment dans la capitale à Paris.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est que votre web documentaire a une identité visuelle très forte et très agréable. D'ailleurs, vous êtes parti d'un format bande dessinée en quelque sorte.
En fait, on a travaillé avec les éditions Ad Libris et notamment le dessinateur Mako et l'écrivain Didier Deninx, qui ont écrit Octobre Noir, et nous sommes partis de leurs planches qui nous servait de liant en fait entre tous les chapitres que nous avions décidé dans cette plateforme documentaire. La BD était un bon moyen à la fois d'avoir des éléments visuels de ce que nous ne savions pas vraiment, des violences policières, des meurtres qui ont été commis, et c'était aussi un bon moyen de guider l'internaute à travers les différents espaces de ce webdoc.
Alors, je pense aussi que vous pourrez, dans l'avenir, l'enrichir encore, puisque c'est l'avantage de ce genre de travail, c'est qu'il n'est pas figé.
Exactement. Nous, on aimerait beaucoup aller en Algérie, notamment pour voir ce qui s'est passé, comment tout cet épisode a été vécu sur place. Et puis, on a invité à l'époque, l'an passé, tous les témoins ou tous les gens qui ont eu des parents ou des grands-parents qui ont participé à cet événement à venir témoigner sur Facebook, notamment.
Alors maintenant que j'ai retrouvé ma petite fiche, vous voyez comme quoi, je peux reciter votre nom, Olivier Lambert. Vous êtes donc le co-auteur avec Thomas Salva, qui donc est le photographe qui avait fait ce premier reportage. Olivier Lambert et Thomas Salva, les co-auteurs de ce web documentaire. 17 octobre 1961, La Nuit Oubliée. On m'a donné deux lignes avec toutes les indications pour les... Mais il suffit, je l'ai fait moi-même, il suffit d'aller sur Internet, sur n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez ce titre et vous êtes directement en présence de l'événement.